Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de notre podcast Fleurs au vent. Je suis Émilie, j'ai le plaisir de m'entretenir chaque mois ou presque avec Anne-Fleur Sarraud, directrice Wingwood. Bonjour Anne-Fleur.
Bonjour Émilie.
Je suis donc directrice Wingwood, maman de deux enfants et dans ce podcast, tu nous partages tes sensations, tes envies, tes coups de cœur, tes coups de gueule, tes inspirations et motivations du moment. Nous sommes au mois de septembre et oui, il est arrivé et nous avons bien essayé de marcher à reculons, mais en vain, le compteur du temps a continué de défiler. Si vous avez la référence cinématographique, laissez-nous-la en commentaire. Pour nous donner du baume au cœur, nous entretenons les vestiges de notre bronzage à coups de crème hydratante et jouons les prolongations en conservant quelques habitudes estivales à l'heure du déjeuner, même si à travers nos lunettes de soleil, notre pareil étrange en terrasse fait lui aussi bien pâle figure face à notre regretté spritz. Mais nous connaissons bien les règles du jeu, après le summer break, place à la rentrée. Et je vous le dis tout de suite, autant le prendre avec philosophie. On n'en est pas à notre première entrée et nous sommes encore loin de la dernière. Fin des années 90, je vous aurais dit, on prépare son sac de cours en y rangeant notre joli agenda tout neuf, notre nouvelle trousse encore immaculée, remplie de stylos multicolores, nos nouveaux cahiers qui sentent bon la motivation du début d'année et notre monnaie pour le snack chocolaté de 10 heures qui nous permettra de tenir jusqu'au burger, frites, crème glacée du déjeuner. On envoie un texto dans un langage presque codé de 160 caractères facturé 1 franc à sa mère Cops, seulement pour savoir comment elle va s'habiller demain, oui. Et lui donner rendez-vous à l'arrêt de bus où nous parlerons du film Armageddon sorti un mois auparavant en salle, en bitchant un peu sur la relation du beau Ben Affleck avec Gwyneth Paltrow. On pense activer l'alarme du radio réveil et on écoute pas trop tard Lovin' Fun pour éviter les pannes de réveil. Mais nous sommes en 2023. Certes, le temps a passé. Alors je vous dirais juste, pensez à bien charger téléphone et ordinateur et surtout mollo sur Netflix ce soir. Ah, et si l'idée vous avait effleuré d'un tout petit tour sur TikTok pour voir comment se porte le monde de l'influence à la veille de la rentrée. Non, n'y pensez même pas. Allez, je suis sympa. Demain, la machine à café en savourant notre bar ici, vegan, sans lactose ni gluten. On aura tout de même le droit de bitcher un tout petit peu sur la relation de J.Lo et le toujours très beau Ben Affleck. Le revoilà. Même si c'est juste par simple jalousie, parce que J.Lo semble ne pas avoir traversé les années à la même vitesse que nous. Une petite pensée à ceux qui font leur rentrée universitaire la semaine prochaine. Nous sommes en 2023. En entreprise, comme dans la cour du lycée, on retrouve le rocker, la lolita, la snob, le bobo, le sensible, l'intello, le sportif, le bon pote, le gueulard ou la gueularde, le geek, l'artiste, même si les looks se sentent un petit peu assagis dans l'open space pour se mettre en conformité avec les règles acquises de l'entreprise. En 2023, réussir la vie a pris le sens de s'épanouir au travail, comme dans la vie privée, comprendre les enjeux de l'entreprise, donner du sens à notre mission, y laisser notre empreinte, rendre à J.Lo ce qui est à J.Lo, et affirmer notre singularité. Rester fidèle à nos envies, nos ressentis, à qui nous sommes, apprendre à cultiver nos différences et partager nos talents, être en somme plus authentique, être unique dans la vie perso comme dans la vie pro. J.Lo l'affirme, elle est restée la même Jenny from the block depuis toutes ces années. Et si c'était là, laquelle succès ? Dans ce 13e épisode de Fleurs au vent, j'avais envie d'interroger l'unique Anne-Fleur Sarraud sur les indispensables règles du jeu de l'entreprise et les règles d'un jeu, J.E. sans filtre, pour rester soi-même dans un monde professionnel avec ses codes, archi-compétitifs, pas toujours drôles, mais dans lequel il est si bon de se sentir à sa place. Je prends ma respiration et je vous présente le sommaire. Au sommaire de cet épisode, interview de l'instant présent dans laquelle Anne-Fleur, tu vas nous partager ton état du moment. Fleur au mois de septembre, bilan et ambition, le fil Wingwood consacré à la règle du jeu en entreprise, l'article de Camille, peut-on vraiment être soi-même au travail, si oui, comment ? Plaisir d'offrir, joie de recevoir ton partage d'expérience, tips sur le sujet. Et enfin, nous refermerons ce podcast par le quiz Fleurs dans l'air du temps, intitulé pour l'occasion Wingo est dans le game, jeu et enjeu d'entreprise. Je te propose de démarrer tout de suite Anne-Fleur par l'interview de l'instant présent, tes premiers ressentis au réveil ce matin. Démarrons par la forme mentale. En un ou deux mots, je précise, nous enregistrons, nous sommes vendredi.
Je suis en pleine forme, tout va bien.
Impeccable, la forme de la rentrée, c'est parfait. Forme physique, justement, si tu étais un jeu, est-ce que tu serais le jeu de société comme le docteur Maboule, tu as mal partout et attention à celui ou celle qui viendra un petit peu te chatouiller, plutôt un jeu de rôle, fatigué mais tu te glisses dans ta peau de working mum et tu vas donner le change, Ninja Warrior et évidemment la tour des héros 23 mètres à la force des bras, même pas peur.
Écoute, Ninja Warrior.
Je le sentais comme ça.
Non, mais tu sais que je ne sais jamais faire une réponse toute simple et toute. J'ai envie de te dire un peu de tout, un peu de. Mais tu vois, là, je me suis mise debout. Ça fait partie de mes résolutions de rentrée, de passer du temps à mieux s'oxygéner. Le cerveau a besoin d'oxygène pour travailler. Et on est assis toute la journée, il y a un truc qui ne va pas, on n'est pas du tout fait comme ça. Voilà, il y a le soleil, tu sais combien ça compte. J'ai pris un coach.
Dans encore un peu.
J'ai pris un coach depuis quelques temps. Ça fait vachement de bien d'avoir quelqu'un qui te dit « Allez, plus fort !» et puis qui te dit « C'est bien de faire ta progresser » et tu le crois parce que c'est son métier, tu l'as dit. Donc, c'est du Ninja Warrior avant. Et puis, tu vas l'entendre sur la suite de je pense, je suis à fond là, je suis au taquet.
Bon, ben… Excellent. J'ai envie de dire, est-ce que quand même, malgré tout, malgré cette tour des héros de 23 mètres à la force des bras, tu sens quand même une petite difficulté autre à mentionner ?
Ah oui, bah c'est la rentrée, hein, c'est le mois de septembre, c'est l'enfer. Dans une vie de parents, c'est encore, t'as vraiment le mois de juin, le mois de septembre. Maintenant, je sais, c'est l'enfer. Donc, j'ai pas de, je le sais, tu sais, c'est comme quand je te dis le réveil du
intégré. Lundi.
C'est difficile, le réveil de retour de vacances, c'est difficile, mais on sait que le corps va s'y faire. Voilà, c'est un peu pareil. C'est, y en a de partout. Tu as des mouvements, je ne veux pas te raconter là, ma vie, mais du truc depuis 10 jours là, avec les enfants. Donc voilà, donc je suis déjà en retard partout. Ouais, non, c'est dur. Mais comme tu le vois, au fil des années, des mois, des semaines. On va regarder la partie soleil, on va regarder la partie énergie, on est debout, ça va bien. Je t'ai partagé un petit poème il n'y a pas longtemps sur le sens de la vie. J'essaye de garder aussi ce cap-là. Donc, non, c'est absolument pas facile. Je suis très fatiguée déjà. J'ai peur de pas réussir à tout gérer de ma vie de maman, de ma vie de chef d'entreprise. Il n'y a pas de débat, j'ai pas le droit de je peux pas en fait
arbitrer
entre les deux espaces. La rentrée, elle est importante des deux côtés. Je peux la rater ni à droite ni à gauche. Et en plus, à chaque rentrée, je m'impose, tu le sais, de re-questionner, réétablir des nouvelles routines, des nouveaux caps, etc. Donc, c'est méga dense, hein. C'est Ninja Warrior dans tous les sens du terme et on n'est pas absolument pas bien en haut de la tour des héros. On est éventuellement hyper fiers une fois qu'on a franchi le cap, mais c'est plus un état d'esprit, tu vois, je me mets Superman, je suis là et les Superman, c'est un état d'esprit, on se met dans la philosophie, on est armé pour confronter la vie. La vie, c'est pas facile. La vie, ce sont des roses, la vie, ce sont des larmes, nous dit Monsieur d'Ormesson. Donc, c'est comme ça. Mais disons que j'essaye d'encourager le sourire. C'est de la bouche, tu sais, toujours comme ça. Mais je pense que si on fait l'effort, c'est un effort qui après se et dans
une bonne dynamique.
Voilà. Et puis, j'ai fêté mes 18 ans dans mon entreprise cette semaine. J'ai fêté ma
majorité professionnelle. Félicitations.
Je suis dans un bain de gratitude et de renouvellement de ma gratitude. Et en fait, je te dirais, tu sais, comme les journaux de gratitude, etc. En fait, c'est un truc, tu sais, c'est un truc hyper vertueux, comme de faire du sport, comme de… je pense que ça doit sécréter des hormones, un certain nombre de choses. Donc non, il n'y a rien qui est facile, mais je pense qu'on peut prendre la vie dans le bon sens. Et en tout cas, là maintenant, tout de suite, tel que tu me prends, je suis dans cet état d'esprit-là.
Eh bien, justement, j'allais en arriver à la question de la gratitude pour faire passer un petit peu la pilule. La gratitude, la mémoire du cœur, tu as écrit quoi en premier ce matin dans ton journal de la gratitude ?
Moi, je ne l'ai pas écrit en vrai, mais je dirais que si j'avais dû écrire quelque chose, j'aurais dû écrire merci Olivier, qui est notre directeur technique et qui est très très exigeant et pas toujours. Il prend pas beaucoup de pincettes dans ses mots. Néanmoins, moi, l'exigence comme ça, ça me pousse toujours. Et en tout cas, quoi qu'elle. quoi qu'elle m'énerve, quoi qu'elle me crispe, je dialogue avec elle dans ma tête et je me confronte à pourquoi ça me crispe, pourquoi ça m'énerve.
Et qui nous écoute, hein, on l'embrasse fort parce que...
Qui nous écoute probablement. Et donc, je lui dirais merci parce qu'effectivement, il me gratte. Mais je dialogue avec sa gratte et je pense qu'on peut être très bon en collaboration si on arrive à dialoguer tous les deux. Et ce matin, je faisais une intervention sur l'intelligence artificielle dans notre entreprise. Et sans lui, je n'aurais pas fait cette intervention-là. Et grâce à lui, je vois très, très loin aussi devant. Et du coup, ce matin, comme je suis couchée très tard hier pour préparer et que je me suis levée très tôt ce matin pour continuer ma préparation, j'ai, quand le réveil a sonné, branché direct de « Non, je ne peux pas faire snooze sur le réveil. Je dois tout de suite aller travailler avec ChatGPT en vue de la presse dans 2 heures. » Donc voilà. Merci, Olivier.
Merci Olivier. Et effectivement, l'embrasse, c'est une challenge toujours. Bah, autant que toi, c'est vrai que vous, du coup, vous êtes très complémentaires, je pense, aussi, notamment sur ce domaine bien précis de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ton exposé était très enrichissant et plein de belles promesses pour l'avenir, je pense. Tes ambitions, justement, pour ce mois de septembre?
Ah bah l'intelligence artificielle, hein. Je suis rentrée vraiment en me disant c'est difficile les rentrées au fur et à mesure, surtout quand je vais pas changer de poste, je vais pas, enfin voilà, c'est un redémarrage, entretenir une entreprise. On me demande d'avoir des grandes ambitions pour développer l'entreprise, mais juste en fait travailler tous les jours pour déjà qu'elle continue son chemin, que chacun continue son chemin. Enfin, c'est l'entretien d'abord avant le développement. Et du coup, le sens à trouver. Et puis, comme je dis, j'ai eu des éléments perso qui m'ont questionné sur le sens de la vie. Et en fait, en quelques jours à la rentrée, je me suis dit, si, le sens, il est clair. Il y a une révolution qui est en route, qui va changer notre vie et je vais en être actrice pour notre entreprise. Et donc, j'ai une compétence de direction des opérations qui est mon cœur de métier initial. Donc, il y a toute une logique de l'IA pour augmenter nos métiers. Et donc, je passe mes journées sur cette question-là. Et l'autre axe de mon kiff métier, c'est tout ce qui est développement produit, imaginer, créer des produits. Et donc, c'est l'autre axe où je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans nos métiers avec l'intelligence artificielle. Donc, je suis hyper excitée et ça résonne vachement avec mon métier historique et je suis dotée d'un nouvel... c'était quoi ta question? Mon ambition sur la rentrée, c'est de faire... En fait, j'arrête tout dans ma tête. J'ai tout arrêté en me disant non, je ne reprends pas la vie et le plan stratégique tel que je l'avais écrit il y a 6 mois ou il y a 3 mois même. Je le prends comme si à chaque point du plan... Je réanalysais le l'axe en se disant et avec avec l'IA qui m'enlève des freins, qui repousse les limites, comment je réécris l'objectif à 3 mois. Et donc là, je suis dans un mode où mon ambition c'est de voir comment je fais pivoter chacun et l'entreprise, sachant que l'IA est là. Et donc, c'est absolument pas, on restera sur le métier à date. On a un métier fort qui est de mettre en relation avec des experts du mieux-être. On va rester là-dessus, mais toutes nos tactiques et stratégies pour opérer cette activité peuvent être augmentées, disruptées grâce à l'IA. Et donc, c'est ça mon ambition. Je pense que je dois... pour mon entreprise, pour chacun. Je dois être actrice de cette ambition et faire l'interface, comme je l'ai toujours fait, entre les hommes et les machines. Là, il y a une machine qu'on ne connaît pas. On me demande des guides d'usage. Je leur dis, ça n'existe pas, en fait, parce qu'on va les inventer ensemble. Voilà.
Donc, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Fleur. Je te propose de passer tout de suite à la rubrique du Phil Wingwood, Entreprise, les règles du jeu, J-E. Peut-on vraiment être soi-même au travail? Si oui, comment? Un article à l'origine sur le site wingwood.com, un article de Camille. Par peur, parfois par pudeur, être soi-même au travail n'est pas simple puisqu'on nous dit souvent de maintenir une frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. Anne-Fleur, j'aimerais recueillir ton retour d'expérience et discuter avec toi du sujet de l'authenticité au travail, de l'expression du soi dans le milieu de l'entreprise. Première question, selon toi, en quoi consiste le concept d'être soi-même en entreprise?
C'est une drôle de question que l'authenticité, parce que c'était un des premiers freins qu'on va me brandir quand je vais proposer.
J'ai pensé à toi en écrivant cette question.
quand on va proposer de collaborer avec l'intelligence artificielle. Et c'est une drôle de question que tu me poses aussi quand tu dis tu penses à moi, parce que il faut savoir quand même qu'une partie des gens se demandent si je suis un robot. Je le vis très bien. Et en même temps, toute personne qui m'a côtoyé 3 minutes, même dans un univers professionnel, m'a vu forcément pleurer. Forcément.
Il n'est donc pas un robot.
De joie, d'émotion, de colère, de peur. Tout le monde dans mon entreprise, je pense, m'a vu pleurer. Ou pas loin. La question de l'authenticité. Écoute, moi, j'ai la chance. Je ne sais pas si je suis très légitime pour donner des conseils ou une vision là-dessus, parce que ma vision est forcément très, très prismée. J'ai fait 18 ans dans la même entreprise avec les mêmes chefs et j'en suis devenue une des chefs. Donc, le rapport à l'authenticité, il est quand même lié au contexte de l'entreprise, au contexte unique de l'entreprise, au contexte de la hiérarchie, au contexte des collègues. Et donc, je pense que la réponse à ta question, elle dépend énormément de ce contexte et de notre liberté de choix ou pas par rapport à ce contexte. Parce que j'aurais envie de te dire, oui, moi, je pense que être soi-même, c'est nécessaire. L'authenticité, c'est essentiel. En tout cas, que ça rend le possible bien plus grand, parce que c'est notre unicité qui va faire un peu ce qu'on va pouvoir construire dans le collectif. C'est notre identité, notre unicité. Mais ça, c'est mon vécu de l'entreprise et c'est ma façon de gérer les hommes dans cette entreprise aussi. Et je ne sais pas combien j'ai eu la chance au départ. Je l'ai choisi en fait, où j'ai participé à le construire, ce contexte qui nous permet, voire qui nous encourage, voire qui l'exige, qu'on soit authentique pour aller chercher le talent unique et la contribution unique qu'il y a chez chacun. Je te dirais aussi que si je réfléchis, et tu sais que je suis très efficience opérationnelle et machine qui avance, c'est sûr que quand on est dans une usine ou quand on est dans un grand groupe, la fonction va forcément primer sur l'individu, mais c'est un peu nécessaire, parce que si on réfléchit, je ne sais pas si on a déjà eu cette discussion sur le podcast, mais dans une grande entreprise, une personne, elle vient dans une équipe pour à peu près 3 ans et donc elle va en moyenne, au max, côtoyer ses collègues pendant 1 an et demi. Les autres, enfin voilà, il y a des mouvements, en mouvement tous les 3 ans, donc mathématiquement, voilà, donc dans une équipe de 3, c'est une chose, et une équipe de 10, c'est encore. Donc forcément, les process vont primer. Forcément, la fonction doit primer. Et forcément, je viens avec un habit et j'ai un rôle à jouer. Et donc, je suis plus dans une pièce de théâtre que dans le théâtre de ma vie. Je pense que ça, c'est vrai et nécessaire, du coup, dans des grosses entreprises, dans des usines. Et je pense que ça bouge, mais ça se comprend que ça s'en soit arrivé là ou que on en soit là dans ce type d'entreprise. C'est beaucoup moins vrai, je crois. J'imagine, en tout cas, j'ai pas de ce que j'ai eu l'occasion de voir, dans une petite entreprise qui va beaucoup moins avoir besoin, voire qui va pâtir en fait des frontières. Moi, le nombre de fois où on me dit, bah ça c'est pas chez moi, c'est un tel. Ouais, enfin, et moi je fais comment? Enfin, c'est pas le sujet. Et hier. J'avais le petit quotidien de mon fils, tu sais, qui parlait de c'est quoi un tremblement de terre et qui représentait les plaques tectoniques. J'adore les plaques tectoniques. Et tu sais, et donc là, j'ai demandé à Bard comment expliquer tout ça à mon fils dans ses mots. Et il me parle d'un puzzle. La terre est un puzzle. J'ai beaucoup aimé la terre est un puzzle.
Ouais,
c'est un puzzle. C'est un truc. L'entreprise, c'est ça. C'est du coup des pièces de puzzle, comme les plaques tectoniques. Des fois, elles font ça. Du coup, ça fait des montagnes. Des fois, elles font ça. Ça fait du tremblement de terre. Des fois, elles sont comme ça. Et il y a un fossé au milieu et le truc n'avance pas. Donc, être intelligent, être solidaire, être à l'écoute, être soi, du coup, me semble essentiel plus l'entreprise est petite, moins il y a de gens, plus ça va être essentiel. Pour autant, l'homme est un loup pour l'homme, hein, comme on dit, en société, non, on va pas pouvoir venir comme ça et vomir sa rage sur tout le monde parce que ce matin, ça s'est pas bien passé. Donc, faut trouver un équilibre, c'est pas c'est pas évident. Moi, j'ai envie de croire, mais je vis un peu chez les bisounours, tu le sais, et je suis actrice de notre entreprise, donc j'ai, on va dire, un peu les moyens de mes envies. J'ai envie de croire que la vie devrait et pourrait être une vie d'authenticité et de sincérité en entreprise, de pouvoir accueillir chacun avec ce qu'il vit et comme il est. Maintenant, on est aussi encodé par une société. On a tous ces codes qui nous créent des déviances, qui nous créent. On est un peu vicieux. Tous les hommes ont des défauts, ont des vices, ont des tendances à la paresse par moment. Enfin voilà, on peut pas. Faut trouver un équilibre et autant que possible, si on peut choisir un endroit qui nous permettra d'être soi, faut le faire. Si on préfère un endroit où on est au théâtre, bah, faut le faire aussi. Et c'est aussi, du coup, une question de choix personnel. Et puis, je te dis ça tout en ayant conscience que tout le monde n'a pas le choix, qu'il y a des endroits où on travaille pour manger, tout simplement, et qu'on n'a pas forcément le choix de partir et d'aller trouver un endroit plus adapté, qui permettra plus d'authenticité. Donc, la vie est compliquée, comme je disais tout à l'heure. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Moi, mon gris, à moi, il me plaît bien. Mais je lâche.
Il n'y a pas un moment où ça t'a desservi, justement, de te montrer tel que tu es. Oui.
Ouais, mais c'est pour ça que ça dépend de l'autre, en fait. Tu ne peux pas le déterminer. Et donc, après, c'est comme tout dans la vie. Après, ça dépend derrière de comment toi, tu résonnes, R-E, résonance, avec la réaction de l'autre. Moi, je pleure. C'est comme ça. Je pleure. Et en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte que je pleurais de colère aussi. Je ne suis pas juste une petite chose là. Donc, je suis sensible, pas fragile. Et je pleure. Parce que mon émotion est comme ça, c'est une émotion d'introverti. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était la même chose que de la colère. Je veux dire que d'autres personnes, au lieu de pleurer, vont hurler. Effectivement, les larmes d'abord, ça va décontenancer l'interlocuteur qui ne va pas savoir quoi faire. Alors, c'est beaucoup moins agressif que des cris.
Des cris.
Et il y a des gens qui seraient plus à l'aise si je criais que si je pleure. Parce que selon ce que ça
peut déstabiliser.
Les larmes, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas du tout eu envie de faire ça. Et donc, il y a des gens qui… j'ai encore eu une scène il n'y a pas longtemps où ça a cassé la discussion parce que mes larmes ont démuni mon interlocuteur, mais de manière… intime, on va dire, presque, de ce que ça a provoqué. Puis, je suis une fille, hein, donc en face des garçons aussi. Les larmes, ça joue. Donc, oui, ça m'a posé des situations. Donc, soit des gens qui m'ont jugée et ont imaginé une fragilité. Moi-même, je me suis souvent auto-jugée du fait de ces larmes et qui sortaient comme ça. Et ce n'est pas ma décision d'être authentique ou pas, c'est qu'elles étaient là. Mais du coup, mon cerveau disait « Regarde, tu es vraiment nulle, tu vas encore pleurer. » Et là, boum. Et en même temps, ça m'a fait faire le tri, en fait, avec les gens qui le vivent moins mal. Et les situations, ça ne me dessert pas. Et puis, c'est devenu, quelque chose que j'ai appris à apprivoiser. Je ne l'ai pas éteint.
Très bien. Bah, c'est bien aussi d'apprivoiser, puis être comme on est, simplement, et faire avec, en tous les cas. Et dans le monde de l'entreprise, est-ce que toi, tu as déjà été surprise par un membre de tes équipes qui a soudainement exprimé sa personnalité, que tu ne soupçonnais pas du tout jusqu'alors, pour servir de manière positive une idée, un projet, un collègue? Est-ce que tu as ça en mémoire?
Oh bah, à la fois 100 000 fois et à la fois là, comme ça, un.
C'est sûr de donner un exemple.
Je dois te dire que surprise, non. Parce que... Je crois, peut-être ça me flatte un peu, mais c'est peut-être un peu présomptueux, mais je crois que mon truc, c'est de sentir les gens et de savoir les métiers et de connaître notre projet. Et du coup, de circuler là-dedans. Donc, quand ta question, ce qu'elle fait résonner en moi, c'est qu'en général, non, ça ne m'a pas surpris. Ça a plutôt été des « ah, enfin », si tu veux, de voir la fleur éclore, de voir l'expression de quelque chose que je pressentais, mais qui se réalise. Et du coup, par rapport à ta question de l'authenticité, de la sincérité, je pense que j'arrive à ressentir quand la personne n'est pas elle-même. J'arrive à ressentir quand il y a quelque chose qui la bloque, qui la bride, qui la frustre. Et en même temps, du coup, je cherche le chemin sans violer son intimité ou sa pudeur. Ou tu vois, j'essaye de chercher le chemin pour exprimer sa personnalité, parce que moi, je crois que c'est la richesse de notre entreprise et que c'est cette méga caisse de résonance de talent et d'identité qui va nous faire avancer en tant que collectif. Mmh. J'ai plus souvent eu des blocages de « là, je ne comprends pas cette personne, je la sens et elle ne fait pas, d'une manière ou d'une autre. » Pas au sens où elle ne se met pas en mouvement, mais son livrable ne correspond pas à ce que je sens. Donc, où je trouve le déclic. Et donc, d'autres fois, plus, ah, là, j'ai dû, je ne vais pas citer les prénoms, je ne voudrais pas les gêner, mais j'ai dû lui, j'ai dû elle, j'ai dû, et prénom unique, identitaire, voilà. Donc, c'est plus un soulagement ou une fierté ou, qui s'est faite parce que ce n'est pas évident, en fait, de créer le cadre de confiance qui fait qu'on va se libérer. On est tout plein de nos freins à nous, on est tout plein de la peur de l'autre, on est tout plein des expériences du passé où ça s'est bien passé, et y a plein de gens où s'exposer crée une fragilité, et du coup il y a un mix entre moi je pense que ça décuple ton potentiel d'être authentique, mais d'abord il y en a plein qui se sentent juste fragilisés, comme tout à l'heure avec mes larmes, effectivement d'abord je suis juste fragilisée si je le vis comme ça et que l'autre le vit comme ça. Donc voilà. Donc j'ai plein d'exemples. Là, je voudrais pas en citer un parce que j'en ai vraiment plein de ah là je l'ai eu lui et tous les jours c'est mon métier d'aller chercher lui elle pour ça et de faire mettre aussi autour de la table des gens et de voir. Il y a des gens, tu les mets autour de la table, ça ne se passe pas, il manque un ingrédient, il est où l'ingrédient? Est-ce que c'est une autre personne? Est-ce que c'est une autre table? Est-ce que c'est une autre recette? Voilà, donc surprise, mais épatée et enfin émerveillée de la magie de une sorte de d'éclosion identitaire qu'on peut générer, ouais.
Ok. La culture d'entreprise, du coup, bah, c'est très important justement pour favoriser un environnement où les employés se sentent à l'aise pour être eux-mêmes. On l'a bien compris, c'est quelque chose que tu t'emploies à faire chez Wengo. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes professionnels qui rentrent justement sur le marché du travail et qui souhaitent trouver un équilibre entre authenticité et attente de l'entreprise?
Ah, j'ai tellement souvent cherché du travail que je suis vraiment très légitime pour vous.
Bah, tu fais passer des entretiens.
Oui, mais bon, écoute, je pense que la question est dans les deux sens. C'est que s'il y a un concept qui s'appelle la symétrie des attentions. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose dans les cultures d'entreprise. Parce que la culture d'entreprise, finalement, c'est un petit peu aussi le pendant négatif de l'authenticité. C'est plutôt l'ennemi de l'authenticité, parce que justement, la culture peut être le truc qui fait qu'on met tout le monde dans le même moule, qui fait que tu deviens, en fait, tu sais, c'est le meilleur des mondes, quoi. Enfin, je veux dire, on rentre dans le truc et on s'oublie soi-même, en fait. La culture d'entreprise, c'est quoi la différence par rapport à ce que tu mentionnais tout à l'heure de la cour du lycée où tu fais comme la star pour être tous pareils. Tu vois, ma fille, elle me dit que c'est pas bon à l'école. Et ma fille, elle mange tout. Mais depuis quelques semaines, elle me dit c'est pas bon à l'école. Je pense qu'elle dit c'est pas bon à l'école parce que tout le monde dit c'est pas bon à l'école. Et que, tu vois, donc la culture, on est dans le truc qui te lisse l'authenticité, la sincérité, l'unicité, l'identité. Mais c'est extrêmement important, la culture, pour emmener un groupe ensemble. Je pense qu'il y a un sujet qui et quelle est la bonne méthode, je ne sais pas, mais qui est déjà de prendre conscience de sa propre identité. Parce que, moi, je peux te dire que c'est un truc, j'ai pas fini le travail là-dessus, de faire la part, de faire le tri en moi de « il faut » versus « je veux » et « je suis » versus « je dois ». Et ces éléments-là sont quand même assez essentiels, et si tu te connais pas toi-même, alors va pas discuter avec le monde extérieur de ces questions-là. Et du coup, mon authenticité, Est-ce que je la connais? Et puis, du coup, l'authenticité de l'entreprise et l'authenticité de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés et vis-à-vis de ses clients. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, comme tu dis, la symétrie des attentions. Comment est-ce que tu mesures ça en entretien? Il doit y avoir des tips, il faut réfléchir. Après, il y a des indices. Mais il y a des indices en même temps. Enfin, c'est comme ChatGPT et LinkedIn, etc. Il y a la vie qu'on dit et puis la vie qu'on mène réellement. Il y a plein d'alertes dans tous les sens de l'entreprise qui te dit babyfoot et compagnie, attention, c'est soit pas la réalité, soit il y a un problème, ça ne vous fera pas grandir. On est là au travail pour grandir, pour progresser, enfin, etc. Donc, faut essayer de mesurer l'authenticité. Et puis, encore une fois, il n'y a pas de finalité. Hein. C'est-à-dire que si moi, il y a des jours où je me dis, si je rentrais faire le soldat toute la journée de 8h à 18h et puis après, j'allais être authentique avec mes enfants, peut-être que ça m'irait aussi bien. Et je pense que selon les gens, c'est pas parce qu'on est plus dans des rôles et des moules que pour autant on respecte pas l'homme. Hein. C'est pas je pense qu'il faut vraiment se connaître pour faire son choix. Et après, comment on fait son choix et comment on éclaire son choix en parlant avec des collaborateurs, en parlant avec des futurs collègues, en regardant la façon de communiquer, en regardant les avis clients, ça traduit des choses aussi, les avis clients, en regardant et en ressentant les choses et en développant sa sensibilité aux choses. Après, tout le monde n'est pas sensible et après, il y a un moment, on le vivra. Et après, il y a peut-être des questions à poser en entretien, comme on est questionné en entretien par les entreprises, tu sais, de c'est quoi ton plus gros échec, c'est quoi les questions qui se préparent, tu sais, mais qui disent quand même beaucoup de choses. Hein. Elles sont bateaux, ces questions, mais comme tu dis, je fais passer des entretiens, ça me donne plein de choses comme info, la façon de présenter et de vivre l'échec ou des choses comme ça. Donc, il y a peut-être des choses à questionner. Après, une entreprise, elle a pas non plus pour finalité de chacun. Enfin, c'est un optimum global, l'entreprise. C'est pas la quête personnelle de chaque identité. Donc, il y a un équilibre aussi à trouver. Mais tu vois, je disais un post cette semaine d'une nana qui dit, bah voilà, j'ai voulu faire du 4/5e pour gérer mes enfants. Et puis, premier employeur, non. Deuxième employeur, non. Bon, bah, je me suis mise à mon compte. Bah, elle a fait le point sur ce qui était important. Et elle a décidé pour sa vie, je dirais ça. Mmh. Je pense que n'importe quel sujet, le truc qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a plein d'injonctions de vouloir, injonctions de croire que c'est ça la bonne vie. Il n'y a pas la bonne vie, il y a celle qui te convient. Donc, il faut questionner ça et aller chercher, je ne vois pas mon geste, mais dans les tripes, dans le cœur, dans le cerveau et faire l'aller-retour entre les trois et du coup, ressentir ça.
Belle manière de conclure ce sujet. Merci Anne-Fleur. Entreprise, peut-on vraiment être soi-même? Si oui, comment? Article à retrouver sur le site wingood.com. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Comme nous sommes toutes différentes, ce qui marche pour les uns peut ne pas marcher pour les autres. Toi, est-ce que justement tu as une ou plusieurs ressources, que ce soit lecture, témoignage, film, un mentor, qui t'ont toi-même inspiré pour t'affirmer et t'épanouir en restant fidèle à toi-même? Parce que ça s'est fait dans le cadre justement de l'entreprise par tes pairs d'aujourd'hui qui t'ont encouragé, voilà, dans ce sens-là, à être toi-même, ou t'as d'autres
plein de choses. Oui, il y a notamment un des pairs qui un jour m'a trouvé. J'étais sortie de réunion et dit, mais on s'en fout de tes larmes, exprime-toi, c'est pas grave, même en pleurant. Des phrases comme ça m'ont aidée. Un jour, fais un exercice de coaching, tu sais, où tu marches dans l'herbe et puis tu vas voir les gens et tu les remercies pour quelque chose. Et j'ai une personne qui m'a remercié pour la force de mon intelligence et une autre personne qui m'a remercié pour la force de ma sensibilité, et elles ne s'étaient pas parlé. Et en fait, ces gens-là, elles m'ont fait un cadeau extraordinaire puisque mes neurones et mes émotions, c'est ce que j'apprends à conjuguer tous les jours, on va dire. J'ai pas eu un eureka, il y a eu plein d'étoiles dans mon petit ciel qui se sont allumées au fil des rencontres, et oui, j'ai été encouragée à être moi-même, j'ai été encouragée par mes équipes aussi. J'ai beaucoup eu de empower yourself dans mes équipes qui m'ont poussée en fait vers moi-même, en là où moi je me je me comparais beaucoup et du coup, je me disais, c'est peut-être eux qui ont raison. Et on me dit, non, nous, on veut ça. Donc, ça t'encourage. Et mes enfants sont dingues là-dessus aussi. Donc, pas une lecture, 150 000 lectures, 150 000 messages, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai pas un truc. Malheureusement, je n'ai pas un message à partager là maintenant.
Ok, bien, chers auditeurs, n'hésitez pas
à partager. Je vais mal le dire. Tu sais, il y a une phrase qui dit un truc genre. Essaye pas d'être comme les autres, la place est déjà prise.
Oui, exactement. Oui, tout à fait.
J'ai l'impression que cette phrase, elle est vraie.
Elle marche bien, effectivement. Et ben, justement, donc, chers auditeurs, si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à nous les partager, vos expériences, peut-être vos conseils, si vous en avez en commentaire du podcast. Et si vous souhaitez explorer d'autres thématiques liées à l'épanouissement personnel et ou professionnel, rendez-vous sur le site wingwood.com toujours. Refermons ce podcast par notre séquence fleurs dans l'air du temps et notre quiz intitulé pour l'occasion Wingo est dans le game, jeux et enjeux d'entreprise. Je te propose, Anne-Fleur, de faire ici un parallèle entre les jeux de société, les aptitudes qu'ils requièrent et les enjeux du monde de l'entreprise à travers quelques exemples appliqués à Wingo. Démarrons par le Monopoly. On le connaît tous. Diriger une entreprise peut parfois ressembler au jeu du Monopoly où les bons investissements sont clés. Quelles stratégies ont été adoptées pour investir dans les bons domaines et développer l'entreprise de manière judicieuse?
C'est comme au Monopoly. Hein. Ça dépend quand même de la case sur laquelle tu tombes d'abord. Hein. Ça dépend quand même du dé. Alors, il n'y a pas de hasard, on dit. La stratégie, en tout cas la mienne, j'ai pas toujours été à la plume de la stratégie de cette entreprise, mais comme je disais tout à l'heure, moi la mienne, c'est qu'il y a un marché, il y a des clients, il y a dans l'entreprise des actifs techniques, et il y a dans l'entreprise des talents humains, et donc mon axe d'analyse stratégique qui se situe à la triangulation de ces trois axes. C'est-à-dire que quand je me rends compte que je suis un petit peu au fond de moi injonctée de faut maîtriser tous les canaux d'acquisition, faut absolument aller sur TikTok parce que tu vois, faut. Non. En fait, nous, notre kiff, c'est la tech. Là, nous, notre kiff, c'est le produit. Là, ce qu'on sait faire, c'est ça. Et donc, est-ce qu'on a été au bout du potentiel de ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire et du coup, d'aller voir si les clients, ça les intéresse, quoi. Et tu vois, de pas prendre le faux bouquin. Et on a la même chose en tant que parents, hein, donc je pense que ça te parle bien, mais le faux bouquin de voilà ce que c'est bien faire une entreprise, c'est des bouquins nous inspirent, nous nourrissent, mais ça ne doit pas choisir pour nous. Donc, moi, ma stratégie, l'élaboration de la stratégie et des investissements, c'est de bien conscientiser ce qu'on sait faire, de ne pas prendre panique autant que possible devant ce qui se passe et ce qu'on dit autour et de se dire, voilà, mais je vais chérir, capitaliser et nourrir mes actifs. Tu vois, je disais ce matin, dans chaque produit, dans chaque ressource de l'entreprise, les ressources hommes, les ressources tech, les ressources produits, on a les graines de la forêt de demain. Et donc, voilà, on va arroser les graines. Voilà, c'est ça ma stratégie.
Ok. Maintenant, passons au jeu risque. Comme dans le jeu risque, les entreprises doivent prendre des décisions stratégiques qui impliquent des risques calculés. Peux-tu nous partager une situation où la direction de Wingo a dû prendre un risque majeur? Comment vous avez évalué les avantages et inconvénients et quelles leçons ont été tirées de cette expérience? J'ai cherché loin.
On est très très ingénieur analytique, comme tu dis, on dit risque calculé. Et du coup, risque calculé versus risque majeur, on peut pas avancer dans l'entreprise avec ceinture et bretelles. On n'avance pas avec ceinture et bretelles. C'est un vrai défi Quel risque majeur? J'arrive pas à trouver parce que je pense que take a risk, take a chance. Ouais. Comme j'encourage tu prends une équipe de foot ou l'équipe de rugby, hein, elle a joué hier, pour gagner un match, il faut quand même prendre le risque de marquer. Prendre le risque de marquer, c'est prendre le risque de ne plus être à la défense. En même temps, tu ne fais pas tout un match à la défense parce qu'eux, ils vont take a chance de marquer et tu as un risque de ne pas bloquer l'essai. Donc, tout est équilibre. Et tu vois, quand tu me dis risque, le truc principal qui m'agite, moi, c'est les questions juridiques, les questions liées aux inspections. Enfin, il y a beaucoup de choses dans nos métiers sur la fiscalité, sur le réglementaire, il y a tout ce qui est GDPR, enfin, etc. Plein de choses qui viennent protéger les consommateurs, qui sont très complexes au niveau de l'entreprise. Et si tu prends l'analyse de risque du droit, bah tu fais rien. C'est un dialogue, on va dire, entre les risques et les opportunités. Parce que je vois pas d'autres risques en fait que de vrais risques, je veux dire, parce que tous les autres c'est des chances de réussir, quoi. Faut trouver le chemin intelligent en fait pour expérimenter, explorer cette idée que tu as. Et après, par rapport au juridique, je pense qu'on essaye de faire au mieux, mais on n'a pas la réponse a priori. Mais j'ai pas un exemple. Il y en a plein. On a pris plein de risques forcément, mais je les vois tellement comme des opportunités. Puis c'est pas simplement un risque majeur ou un. J'arrive pas à répondre. Oui. À ça, je suis désolée.
C'était calculé et c'est très bien. Le jeu Uno, dans ce jeu, attention aux données variables, les cartes spéciales peuvent changer le cours du jeu en un instant. Peux-tu nous partager un moment où une situation imprévue a bouleversé vos plans en tant que chef d'entreprise et comment vous avez réagi pour vous adapter rapidement? Est-ce que tu as ça dans ton historique?
Alors, j'ai deux trucs qui me viennent. Il y en a un qui date d'il y a quelques années. On a vécu une semaine noire. On avait un plan écrit avec... sur chacune de nos BU une prochaine étape, ça se déroulait et sur chaque BU, je me suis pris un coup dans la tête critique, vraiment critique. Et le cumul en plus de chaque coup faisait que c'était la survie de l'entreprise qui était en jeu. Et moi, ma survie, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est déjà de payer le salaire des gens à la fin du mois. J'ai touché ça. Moi, j'ai pas décidé de monter ma boîte. Hein. J'ai suivi le cours et je suis arrivée. Donc, c'est quelque chose, le jour où tu te confrontes à ça, qui est un peu fort. Comment s'est adapté? Très mal. Parce que du coup, hyper réaction très viscérale de chacun des associés. Et moi, je me suis très mal adaptée sur le moment. Après, j'ai rectifié en quelques mois, mais rétrospectivement, j'ai très, très mal géré cette imprévu. Après, on a mis que quelques mois et puis tu vois, on est encore là, debout sur nos deux pieds. Donc c'est qu'on s'est pas trop mal adapté, mais je m'auto critique et je peux pas te dire comment j'ai bien géré parce que je très très mal géré. Je referais vraiment très différemment l'histoire. Je me poserais beaucoup plus calmement sur la situation. Et l'autre truc, c'est beaucoup plus positif, c'est beaucoup plus récent et du coup, je vais pas non plus pouvoir te partager beaucoup de retours. C'est que l'intelligence artificielle, on en parle depuis des années, le langage naturel des années, on a fait nous aussi beaucoup de R&D là-dessus. Des applications, il y en a plein déjà tous les jours, on n'en parle pas, mais c'est déjà là partout, hein, l'intelligence artificielle. Mais ChatGPT, cette interface plutôt d'intelligence artificielle bouleverse tout. Pour des boîtes comme nous ça je ne l'avais pas prévu et ça change à date comme j'ai dit tout à l'heure tous mes plans et peut-être qu'on se reparle dans 3 mois je te dirais
bon, on va encore changer
en fait, je me suis emballée, tu sais, ça fait des années qu'on parle de la blockchain, bon, Ça n'a pas encore disrupté tous les marchés. Bon, là, je pense que c'est quand même vraiment plus large et plus comparable à Internet qu'à la blockchain. Et la blockchain va quand même disrupter un certain nombre de choses. Mais là, c'est wide révolution, tu vois. Et ça, je n'avais pas du tout prévu que ça arrive d'un coup comme ça. Je le voyais venir petit à petit, si tu veux. Là, ça change ouais, potentiellement toute l'entreprise et tous les projets à partir de demain peuvent prendre une autre forme. Là, tu vois, on arrive en fin d'année, on doit faire le plan d'orientation stratégique de l'entreprise qui doit être présenté aux instances représentantes du personnel. Eh ben, teasing, rien à voir avec l'année dernière parce qu'il y a un élément qui n'était pas prévu.
Eh bien, merci beaucoup, Anne-Fleur, pour ton éclairage et tes réponses à toutes ces questions, toujours sans filtre, avec plein d'authenticité en tous les cas. Le podcast touche à sa fin. Est-ce que tu as un dernier message à adresser à cette rentrée à tous nos auditeurs, aux personnes qui nous regardent ?
Ah bah, faut que je te lise mon petit poème, je suis obligée.
Écoutons.
Alors, attends, parce qu'il faut que je le retrouve. Voilà un petit poème qui a popé dans ma vie. À un moment, j'en avais extrêmement besoin. Il est là. Rire souvent et sans restriction. S'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants. Tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés. Apprécier la beauté. Voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur. Laisser derrière soi quelque chose de bon. Un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès. Savoir qu'un être, au moins, respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde. Voilà ce que j'appelle réussir sa vie. C'est Ralph Waldo Emerson, qui était un essayiste philosophe du 19e siècle, qui a écrit ces mots. Et ces mots sont apparus dans ma vie. Alors, c'est toujours la question du hasard. Un jour où j'étais en quête de sens, il y a 2 semaines, avec une rentrée, comme je disais tout à l'heure, un peu compliquée de questionnement. Et je trouve que ces mots sont très justes. Et voilà. Et moi, j'ai reçu ce message comme un cadeau. Donc, étant donné combien il a été un cadeau pour moi, je me permets de vous le partager. Et j'espère qu'il pourra vous aussi être un cadeau.
Merci pour ce très joli cadeau, Anne-Fleur. Nous te donnons rendez-vous le mois prochain, mois d'octobre, pour nous partager tes humeurs, tes doutes, tes envies, tes impressions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé passer ce moment avec nous, à commenter si vous souhaitez partager vos réflexions avec nous et même à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. D'ici là, vous pouvez trouver l'inspiration et les réponses à vos questions dans tous nos articles, podcasts et vidéos. À très bientôt.